Chapitre 16 de la plus extraordinaire des aventures que Don Quichotte mit à fin. Sancho, qui ne pouvait manger sans boire, fut le premier à dire à son maître que l'herbe fraîche et touffue de cette prairie annonçait quelque fontaine ou quelque ruisseau dans les environs. Don Quichotte et lui se levèrent pour le chercher et s'y désaltérer. Ils prirent Rocinante et l'âne par la bride et commencèrent à marcher avec précaution parce que la nuit était fort obscure. Ils n'avaient pas fait 200 pas que leurs oreilles furent frappées du bruit lointain d'une cascade. Ils s'en réjouissaient déjà lorsqu'un bruit fort différent vint tempérer cette joie et donner l'alarme à Sancho qui naturellement n'était pas brave. Ils entendirent de grands coups frappés à intervalles égaux, mêlés d'un cliquetis de ferraille, de chaînes et accompagnés du bruit du torrent bondissant à travers les rocs. Il était nuit, le ciel était couvert d'un voile épais, et nos héros se trouvaient sous de grands arbres dont les branches étaient agitées. Ces ténèbres, cette solitude, le bruit du fer et de l'eau qui se confondaient avec le murmure des feuilles et le sifflement du vent, tout semblait se réunir pour inspirer la terreur. Mais notre héros, incapable d'effroi, s'élance sur Rocinante et se couvrant de sa rondache. « Ami, dit-il à son écuyer, apprends que le ciel me fit naître dans ce triste siècle de fer pour ramener l'âge d'or. Que c'est à moi que sont réservés les grands périls, les actions sublimes, et que ma renommée doit effacer celle des guerriers de la table ronde, des pairs de France, des neuf preux, de tous les chevaliers du temps passé. Serre les sangles de mon coursier. Reste ici et attends-moi 3 jours. Si à cette époque je ne reviens point, va trouver au Toboso l'incomparable Dulciné et dis-lui que son chevalier est mort en cherchant à mériter la gloire de lui appartenir. » En écoutant ces paroles, Sancho se mit à pleurer. « Monsieur, dit-il d'une voix attendrie, pourquoi voulez-vous tenter une si terrible aventure ? Il est nuit, personne ne nous voit, personne ne pourra nous traiter de poltrons, quand nous nous détournerions un peu. Je vous préviens d'abord que je n'ai plus soif. Notre curé, que vous connaissez bien, m'a dit souvent que qui cherche le péril, périt. Vous devez être satisfait de n'avoir pas été berné comme moi, d'avoir vaincu, comme vous l'avez fait, ce grand nombre d'ennemis qui escortaient ce corps mort. Si toutes ces raisons ne vous touchent pas, songez que j'ai quitté pour vous ma maison, mes enfants, ma femme. J'espérais n'y pas perdre, à la vérité. Mais comme on dit, la convoitise rompt le sac. Que deviennent toutes mes espérances si au moment où je croyais tenir cette malheureuse île que vous m'avez promise, je me vois délaissé par vous? Pour l'amour de Dieu, mon Seigneur, mon Maître, ne me faites pas ce chagrin. Du moins, attendez qu'il soit jour. Jour ou nuit, répondit Don Quichotte, il ne sera pas dit que rien au monde ait retardé l'accomplissement de mes grands devoirs. Serre les sangles de Rocinante et attends-moi. Je serai bientôt mort ou vainqueur. Sancho, voyant que ses larmes, ses prières, ses conseils ne pouvaient rien sur son maître, résolut d'user d'adresse et de le forcer, malgré lui, d'attendre que le jour parût. Pour cela, dans le même temps qu'il serrait les sangles de Rocinante, il lui lia doucement les jambes de derrière avec le licou de son âne. Quand Don Quichotte voulut partir, son cheval, au lieu de marcher, ne faisait que de petits sauts. « Vous le voyez ? S'écria l'écuyer. « Le ciel, plus pitoyable que vous, ne veut pas que vous m'abandonniez. » Don Quichotte se désespérait. Mais plus il piquait son cheval, et moins le cheval avançait, sans se douter de ce qui le retenait. « Allons, dit-il, puisque Rocinante ne veut pas marcher, je vais attendre l'aurore. Quoique je verse des larmes de ce retard si cruel. « Mais, monsieur, répondit Sancho, il n'y a pas de quoi se désoler. Je vous ferai des comptes pendant ce temps, à moins que vous ne préfériez de descendre et de dormir sur l'herbe touffue à la manière des chevaliers. Moi, dormir, y penses-tu? Suis-je de ces guerriers qui dorment quand il faut combattre? Dors, dors, toi qui naquis pour le sommeil. Je m'entretiendrai avec mes pensées. Ne vous fâchez pas, mon seigneur, je ne l'ai pas dit pour vous déplaire. » Sancho, en parlant ainsi, se rapprochait toujours de son maître, tant était grande la frayeur que lui causait ce bruit continuel de ferraille. Il finit par saisir d'une main l'arçon de la selle et de l'autre la croupière, tenant ainsi fortement embrassée la cuisse gauche de notre héros. Au bout d'un certain temps, Don Quichotte veut essayer encore de faire marcher Rocinante. Alors il rapproche de nouveau les jambes, et de nouveau Rocinante saute, sans avancer d'un seul pas, tant il était bien attaché. Cependant la nuit s'écoulait, et Sancho, voyant paraître le jour, alla délier doucement les jambes de Rocinante. L'animal se sentit à peine libre que, quoiqu'il ne fût pas fort pétulant, il essaya de faire deux ou trois courbettes que la faiblesse de ses reins ne lui permit point d'achever. Don Quichotte en tira bon augure et voulut en profiter sur le champ. L'aube laissait alors distinguer les objets. Notre héros s'aperçut qu'il était au milieu de grands châtaigniers, dont les ombrages épais avaient rendu la nuit plus obscure. Mais il ne put deviner la cause de ces coups terribles qui continuaient à se faire entendre. Il renouvela ses adieux à Sancho, lui répéta ce qu'il devrait dire à Madame Dulcinée si dans 3 jours il ne revenait point, et ajouta « Quant à la récompense de tes services, tu ne dois avoir aucune inquiétude. J'y ai libéralement pourvu dans un testament que l'on trouvera chez moi. Mais espérons plutôt, mon ami, que je sortirai triomphant de cette périlleuse aventure, et pour le coup tu peux compter sur l'île que je t'ai promise. » Notre écuyer, en l'écoutant, se mit encore à fondre en larmes et déclara qu'il voulait suivre son maître jusqu'à la mort. Don Quichotte fut attendri, mais, cachant son émotion, de peur de témoigner de la faiblesse, il marcha d'un air fier et calme vers le lieu d'où venait le bruit. Sancho le suivait à pied, tirant par le licou son âne, inséparable compagnon de sa bonne et de sa mauvaise fortune. Après un assez long chemin au milieu de ces châtaigniers, ils arrivèrent dans un petit vallon entouré de rochers élevés, d'où se précipitait le torrent. Au pied des rochers, on voyait de loin quelques misérables maisons qui ressemblaient à des ruines. C'était de là que sortaient les épouvantables coups. Rocinante eut peur et fit un écart, mais notre héros le ramène, s'approche peu à peu des maisons, en se recommandant à sa dame. Son écuyer, toujours derrière lui, allongeait souvent la tête et le cou entre les jambes de Rocinante pour chercher à découvrir ce qui lui faisait tant de peur. Au bout de 100 pas, au détour d'une petite colline, ils découvrirent enfin la cause de leur terreur et de cet effroyable bruit. C'était, il faut le dire, il faut bien l'avouer malgré nous, 6 énormes marteaux de moulin à foulon qui n'avaient pas cessé de battre depuis le jour précédent. Don Quichotte, à cet aspect, demeura muet de surprise. Ses mains laissèrent aller la bride, sa tête tomba sur son sein. Il tourna les yeux sur Sancho, qui fixait les siens sur lui, et les joues enflées et tout prêt à crever d'envie de rire. Notre chevalier ne put s'en empêcher lui-même, malgré son profond chagrin, et Sancho, voyant que son maître heureusement avait ri le premier, mit les poings sur les côtés, et par 4 fois de suite fit et refit des éclats qui bientôt impatientèrent Don Quichotte. Mais ce fut bien pis quand son écuyer osa lui adresser ses paroles en le regardant avec une gravité plaisante. « Ami, apprends que le ciel me fit naître dans ce triste siècle de fer pour ramener l'âge d'or, que c'est à moi que sont réservés les grands périls, les actions sublimes. » Et lui répéta, mot à mot, tout ce que le héros avait dit lorsque les foulons s'étaient fait entendre. Cette raillerie mit en colère Don Quichotte, qui, levant aussitôt sa lance, en frappa si fort l'écuyer persifleur que si ses coups fussent tombés sur la tête comme ils tombèrent sur ses épaules, le pauvre Sancho n'eût jamais hérité dans le testament. « Monsieur, s'écria-t-il plein d'effroi, ne voyez-vous pas que je ris ?»« Moi, je ne ris pas, reprit Don Quichotte. « Répondez, monsieur le plaisant. » Si c'eût été, comme je l'ai cru, la plus périlleuse des aventures, n'ai-je pas montré le courage nécessaire pour la terminer? Un chevalier tel que moi, qui n'a jamais vu de moulin à foulon, doit-il les reconnaître au bruit? C'est bon pour vous, monsieur le manant, élevé dans un chétif village. Faites, s'il vous plaît, que ces 6 marteaux deviennent autant de géants. Placez-les vis-à-vis de moi l'un après l'autre, ou tous ensemble, et si je ne leur mets pas le pied sur le ventre, riez alors tant qu'il vous plaira. »
Apaisez-vous, monseigneur, reprit Sancho d'une voix soumise. Je conviens que j'ai trop ri, mais vous conviendrez peut-être, quand vous ne serez plus fâché, que bien d'autres riraient de même si nous disions quelle a été notre frayeur.
Je ne parle que de la mienne, car pour vous, la peur vous est inconnue.
Oui, je veux bien avouer que l'histoire en pourrait sembler gaie, mais je crois au moins inutile de la raconter. Il est tant d'esprits mal faits qui ne savent point prendre les choses et vont toujours au-delà du but. Votre seigneurie y va droit, excepté lorsqu'elle vise à la tête et qu'elle attrape les épaules, grâce au ciel et à ma promptitude à éviter votre coup. Au surplus, qui châtie bien, aime bien. Quand les grands seigneurs ont dit à leurs valets une parole un peu dure, ils leur font toujours un présent. J'ignore comment en usent les chevaliers errants quand ils ont donné des coups de lance. Mais le moins qui peut s'en suivre, ce sont des îles sûrement ou des royaumes de terre ferme.
Tu dis peut-être plus vrai que tu ne penses. Mais pardonne-moi ce dernier mouvement que je n'ai pu retenir, et tâche désormais, mon ami, de ne plus t'embabiller. Dans aucun livre de chevalerie, je n'ai jamais vu d'écuyer aussi familier que toi.